Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Orange.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler de la Turquie. Le 15 juillet dernier, des militaires turcs tentaient de renverser le président Erdogan. On le sait, ce fut un échec. Et le 17 juillet, deux jours après l'insurrection militaire, alors que les décombres du Parlement fumaient encore et que des arrestations avaient déjà commencé, Recep Tayyip Erdogan prenait la parole devant une foule de partisans.
Ce qui a été fait n'est pas suffisant. Dans toutes les institutions d'État, nous allons continuer à éliminer ce virus. Ce virus qui s'est développé comme une métastase à travers le pays. Comme un cancer. Nous les connaissions, les goulénistes. Les autorités compétentes les connaissaient. Et grâce à ce qui s'est passé, nous allons avoir l'opportunité de poursuivre ce nettoyage.
Puis le 20 juillet, le même président Erdogan annonçait l'état d'urgence.
Darbe girişiminde bulunan terör örgütünün...
Afin de lutter contre les éléments terroristes appartenant à ce groupe responsable du coup d'État du 15 juillet et en respect de l'article 120 de notre Constitution, nous avons proposé au Conseil des ministres de prendre la décision de mettre en place un régime d'état d'urgence. Notre Constitution nous permet de mettre en place les mesures régies par l'état d'urgence lorsque le pays connaît une situation qui menace la démocratie ainsi que les droits et libertés de nos concitoyens.
La reprise en main a été politique, mais aussi économique. Des centaines d'entreprises ont été ou sont expropriées parce que leurs dirigeants étaient supposés hostiles au président. En même temps, le pays est confronté au terrorisme, les touristes fuient la Turquie, la monnaie nationale s'effondre, le produit intérieur brut recule et le chômage monte. Scénario catastrophe ou seulement mauvaise passe pour l'économie de ce pays de 75 millions d'habitants qui fait le lien entre l'Occident et l'Orient. Telle est la question que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Denis Ünal.
Bonjour.
Denis Ünal, vous êtes économiste au CEPI, un des grands centres de recherche économique français. Vous y êtes rédactrice en chef du panorama du CEPI et responsable des profils du CEPI, une base de données qui peut être utile à tous ceux qui ont besoin d'informations fiables sur l'économie mondiale. Outre ce travail, vous êtes responsable du domaine turc chez un éditeur dont le nom est assez poétique, Bleu Autour. Le dernier livre que vous avez publié s'appelle « Une enfance turque ». Y est-il question d'économie ?
Ah non, nullement.
Alors de quoi parle cette enfance turque ?
C'est une enfance républicaine depuis, disons, le début du dernier siècle jusqu'aux années 1980. Qui, à travers des récits intimes, donne l'histoire de la Turquie. Et à travers les récits donc de 33 auteurs, ce sont des intellectuels, écrivains turcs et républicains.
Alors avec nous dans ce studio, Deniz Akagül. Bonjour Deniz Akagül.
Bonjour.
Deniz Akagül, vous enseignez l'économie à la faculté de sciences économiques et sociales de Lille, dans le nord de la France. Vous êtes membre par ailleurs du comité éditorial de la revue Anatolie au CNRS. Parmi vos nombreuses publications, un livre intitulé « La Turquie d'une révolution à une autre », c'est aux éditions Fayard, et ça a été publié en 2013. Dans ce livre, avec vos co-auteurs Faruk Bilici et Ali Kazancıgil, vous expliquez que la Turquie est passée du statut de pays périphérique en développement à puissance moyenne émergente, donc c'était en 2013. Est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmeriez cette analyse ?
Oui, puisque la Turquie joue un rôle important dans le Moyen-Orient depuis, disons, les années fin des années 90. Et donc actuellement, le gouvernement mène une politique active, mais avec des zigzags, avec des retours en arrière, comme l'ont montré les relations avec la Russie, par exemple, et aussi en Syrie.
On en parlera dans cette émission un peu plus tard. Laissez-moi vous présenter notre troisième invité. Bonjour Jérôme Bastion.
Bonjour Jean-Pierre.
Jérôme Bastion, vous êtes connu des auditeurs de RFI, puisqu'on vous retrouve tous les jours à l'antenne pour présenter les informations africaines, mais Auparavant, pendant 20 ans, de 1995 à fin 2015, vous avez été le correspondant de RFI à Istanbul, une ville, un pays que vous connaissez très bien. Est-ce que pendant ces deux décennies de séjour à Istanbul, vous avez vu progresser le niveau de vie de la population turque ?
Ah oui, énormément. La vie quotidienne a formidablement progressé pendant toute la première décennie, je dirais, ou peut-être que ça a commencé un peu plus tard quand même. Enfin, en gros, avec l'arrivée au pouvoir de l'AKP, de M. Erdogan, donc en 2002, donc il y a une quinzaine d'années, il y a eu une formidable montée, un formidable développement. Je crois que, grosso modo, si je me rappelle bien les chiffres, le PIB par habitant a été multiplié par 3. Et puis, maintenant, on est plutôt dans une phase de régression.
Évidemment, dans cette émission des reportages, nous irons rejoindre Alexandre Billette à Istanbul. Il nous parlera du tourisme. Alexandre Billette a également rencontré l'un des représentants du patronat turc. Nous entendrons cet entretien. Enfin, nous irons rejoindre Étienne Bouche à Moscou pour voir comment évoluent les relations économiques entre la Russie et la Turquie. Alors, je fais en introduction une description un peu apocalyptique de la situation turque, avec en particulier une baisse du produit intérieur brut l'an dernier. Est-ce que la situation économique actuelle en Turquie, Deniz Ünal, est-ce qu'elle est vraiment si grave en ce moment ?
Elle est grave, mais ça ne tient pas aux raisons économiques. Ça provient surtout d'un problème institutionnel. D'un très grave problème institutionnel. On peut parler d'un problème de confiance, mais il se trouve que les purges ont vraiment paralysé toutes les fonctions régaliennes de l'État. On peut parler donc de la défense, de tout ce qui est police, ministère de l'Intérieur, de la justice et de l'éducation. Dans ces ministères-là, il y a eu des purges énormes. Et comme vous avez parlé aussi, il y a eu une mise en main des grandes entreprises qui sont accusées d'appartenir au mouvement güléniste. On se trouve dans un chaos un peu indescriptible, qui fait que, vraiment, quand vous êtes en Europe, on dit toujours l'économie a besoin de la confiance, on a besoin de prévoir quelque chose. En Turquie, il est devenu impossible de prévoir. Il y a un problème de gouvernance à cause de ça. Et du coup, donc l'économie en pâtit.
Deniz Akgül.
Moi, j'ajouterais la dimension internationale, du contexte international, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle favorable à l'économie turque, notamment avec les taux d'intérêt qui étaient historiquement bas. La crise de 2008-2009 s'est transformée en fait pour l'économie turque en une aubaine et qui a permis de financer un déficit courant énorme de l'ordre de 8-9% par
mois. Mais pourquoi est-ce que ça a été une aubaine pour l'économie turque ?
Parce que les largesses des principales centres d'émission internationales ont permis donc de recevoir pour la Turquie des fonds. Les capitaux qui ne trouvaient pas d'usage rentable dans les pays développés venaient vers la Turquie, vers les pays émergents.
Donc, vous voulez dire que le fait que la Federal Reserve américaine pratique des taux très bas, et puis de même plus tard pour la Banque Centrale Européenne, ça a libéré des fonds qui ont trouvé à s'investir en Turquie.
Effectivement, oui. Et donc déjà, la Turquie bénéficiait de l'impact positif de l'ouverture des négociations avec l'Union Européenne, avec les investissements des étrangers. Et la crise de 2008-2009 a permis, en fait, à doper les flux d'investissements de portefeuille, ce qui a permis de desserrer la contrainte extérieure. Donc on peut dire par exemple que pendant le gouvernement AKP, donc de 2003 à 2015, les dépenses de la nation ont progressé de l'ordre de 10% par an, alors que la production a progressé de 6% par an.
Et donc la différence
a été comblée par des flux de capitaux extérieurs. Maintenant, on arrive à la fin de ce cycle. Plus ce qui a été expliqué par Deniz, donc ça ne fait qu'aggraver une situation qui devait de toute façon arriver. C'est-à-dire que
Comme ça quand même. Excusez-moi, je te coupe, mais oui. Je veux dire que en même temps, les Turcs sont très très inventifs, même en été, avant qu'on atteint à ce niveau de purge. Et on pouvait dire qu'il y avait une forme de direction économique. Ils ont fait des programmes assez audacieux en lançant l'idée d'un fonds souverain et pour augmenter l'épargne en Turquie. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils sont très réactifs, ils sont bien. Mais seulement maintenant, quand on regarde, ne serait-ce qu'au niveau gouvernemental, la direction économique, c'est un chaos. Vous avez deux ministres.
Les gens
qui sont responsables de l'économie, qui étaient le point fort de l'AKP. Oui. C'était une seule personne qui supervisait
Babacan,
avec d'autres qui sont très forts. C'était des gens vraiment des bêtes de l'économie, si je veux dire. Mais maintenant, ce que nous avons deux personnes qui sont donc Şimşek et...
Même lui, il est...
J'ai oublié le nom de l'autre, mais deux autres personnes qui sont très populistes. Donc, entre les deux, les deux têtes de l'économie, on a quand même un chaos. Et les investisseurs ne risquent surtout pas de venir dans ce chaos-là.
Jérôme Bastion.
Oui, alors il faut se rappeler, un tout petit retour en arrière, il faut se rappeler qu'en 2002, il y a eu une très grosse, 2001-2002, une très grosse crise économique, un krach financier même en Turquie, et c'est sur les cendres de ce krach économique que l'AKP est arrivé au pouvoir. Au même moment, il y avait une crise sans nom en Argentine, et donc le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont insufflé un montant record d'aide pour sortir la Turquie de cette crise et pour pas répéter l'erreur faite en Argentine. Donc effectivement, à partir de 2003, disons, et donc quand l'AKP est arrivé au pouvoir, il y a eu
un
afflux de capitaux monumental, et après il y a eu une machine effectivement économique qui a très très bien fonctionné, puisque donc la Turquie est rentrée dans le cercle très fermé des pays ayant la plus grosse croissance mondiale, une croissance à deux chiffres, etc., etc. On parlait beaucoup des tigres anatoliens, c'était formidable, c'était vraiment effectivement une success story aux portes de l'Europe qui rendait même les Européens jaloux, parce que les taux de croissance, les taux d'inflation et tout ça a été bien, bien, bien meilleur qu'en Europe. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation quasiment inverse. Tous les chiffres tombent dans le rouge. L'inflation, encore pas trop, trop gravement, mais enfin, la production industrielle est en train de s'effondrer. La livre turque dévisse à une vitesse très impressionnante.
La livre turque, c'est la monnaie turque. Hein.
La monnaie turque, la monnaie nationale turque, elle dévisse à une vitesse impressionnante. Dans les 15 premiers jours à peine, les 10 premiers jours de l'année, elle a déjà perdu 10%, 25% dans les 3 derniers mois. Elle perd régulièrement, au jour le jour, elle perd régulièrement 1 à 2% de sa valeur chaque jour. Au tel point que c'est le président Erdogan lui-même qui est obligé d'appeler ses compatriotes, les citoyens turcs, à vendre leurs devises pour soutenir la monnaie ou à acheter de l'or et à investir dans leur propre pays, parce qu'on sent que c'est la panique. Voilà, en deux mots, on sent que c'est la panique, vraiment. Aujourd'hui, c'est assez impressionnant quand même.
Vous partagez ce qualificatif,
oui,
la panique, Denis Akgül?
Oui, depuis tout à fait. Oui, depuis hier même, les détenteurs de devises sont même considérés comme des terroristes économiques.
C'est-à-dire que, tout particulier qui garde des devises, du dollar, de l'euro,
oui,
etc.
Oui, parce que la livre est totalement convertible. Un résident turc, même un non-résident, peut ouvrir un compte en dollars ou en euros ou en livre, et que même on peut faire des retraits à des caisses automatiques en toute monnaie. Il y a une substitution monétaire qui existait déjà dans les années 90. En 2001, il y avait à peu près 58-60% des dépôts qui étaient libellés en devises. Le reste, c'était en livre. Donc, comme la livre n'était pas, n'inspire
donc,
pas confiance...
Erdogan veut que tout le monde convertisse
ces dollars,
et si on ne le fait pas, donc c'est qu'on est, on trahit le pays. C'est ça, l'idée est ça. Mais effectivement, depuis le début de l'année 2015, la livre, ne sait-ce que depuis ce dernier, a perdu de 10%. Ensuite, l'autre monnaie qui a perdu, c'est seulement la monnaie mexicaine qui a perdu autour de 5%. C'est dû à une gestion politique. Pour les Mexicains, c'est indépendant d'eux, c'est Trump. Pour les Turcs, c'est toute leur gouvernance.
L'une des raisons, peut-être, de l'absence de devises, c'est la disparition des touristes qui, peut-être, venaient changer leurs euros, leurs dollars au guichet de change turc. Donc, cet effondrement du tourisme, c'est l'objet de ce reportage, Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Alexandre Billette à Istanbul.
à vendre, à louer, à vendre ici sur l'avenue piétonne Istiklal, l'un des poumons commerciaux d'Istanbul, c'est la crise. Et une crise qui s'explique entre autres par la baisse du tourisme, moins 26% en 2016 à Istanbul, probablement l'équivalent à l'échelle de la Turquie lorsque le bilan de l'année sera publié. Il y a un an, le 12 janvier dernier, un attentat visait des touristes à Sultanahmet, le cœur historique d'Istanbul. Et par la suite, ici même, sur Istiklal en mars, à l'aéroport Atatürk en juin, et bien sûr, la discothèque Reina le 1er janvier, des cibles touristiques qui ont fait fuir les visiteurs, les touristes européens, mais aussi les touristes des pays arabes, dont le nombre était pourtant en pleine croissance. Dans le quartier central de Beyoğlu, autour de la place Taksim, les hôtels ont ainsi enregistré des taux d'occupation de moins de 20% durant certains mois de l'année dernière, du jamais vu à Istanbul. Résultat, plus de 9 milliards d'euros de moins en 2016 pour le secteur touristique en Turquie. C'est une chute de plus du tiers par rapport à l'année précédente. Lorsqu'on interroge les professionnels du secteur, ils disent tous la même chose. L'État doit nous aider parce que la crise sera longue. Au Grand Bazar d'Istanbul, par exemple, à micro fermé, les commerçants s'impatientent et critiquent les autorités. Une colère que l'on n'entendait pas ces dernières années.
Alexandre Billet à Istanbul, le tourisme c'est peut-être un des piliers de l'économie turque, Deniz Akgül?
Je ne dirais pas cela, parce que c'est plus quand même l'industrie donc, qui est à la base de l'économie turque. C'est vrai que le tourisme contribuait substantiellement à l'équilibre extérieur, mais ce n'est pas cette dimension qui va sauver l'économie turque de la crise.
Ou au contraire, la plongée dans la crise. Je veux dire, la disparition du tourisme n'est pas
plongée
une catastrophe.
Dans la crise, oui, on peut parler ça régionalement. Il y a des villes qui seront profondément touchées, par exemple Antalya.
Oui. Non, mais moi, je partage tout à fait cet avis. L'économie turque est forte, surtout par son industrie et surtout au niveau interne, par son secteur de construction. Mais quand on regarde. Mais ça fait un gros impact, évidemment. Sur l'année, il y a moins de 30% sur l'ensemble de la Turquie, la baisse du tourisme. C'est un secteur qui entraîne, parce qu'il n'y a pas que les gens qui sont dans le secteur tourisme qui en profitent. D'autres secteurs de services,
même la construction, fruits et légumes. Par exemple.
Voilà, ça peut, mais quand même, c'est quelque chose comme de l'ordre de 4-5% en Turquie. C'est pas du tout comme la Tunisie. C'est un très grand pays qui a un énorme marché intérieur, quand même.
75 millions d'habitants.
Voilà, ajoutons à cela, en fait, on était 77 millions, en fait, et ajoutons les 3 millions de réfugiés chez nous, on a un très grand pays. Et dans ce grand pays, le secteur phare, c'est l'industrie, c'est l'automobile. C'est la chimie, c'est la mécanique, donc c'est le textile qui a beaucoup régressé, il faut le dire. Donc c'est un autre pays, il faut quand même, le tourisme, ça montre quand même, c'est un bon indicateur pour voir le manque de confiance des États. Parce qu'au-delà de la crise qu'il y a eu avec la Turquie, c'est parce que la Turquie en ce moment c'est un endroit vraiment pas sûr. Même les Turcs se sentent en danger. C'est un indicateur de l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport à la sécurité dans le pays.
Jérôme Bastion, vous confirmez?
Oui, d'ailleurs, la Confédération des patrons, la TUSIAD, prévenait hier des risques sur l'économie turque, des risques sérieux. Il y a besoin, disait M. Tuncay Özilham, de renforcer les institutions, de réduire les incertitudes politiques, justement. Les mesures prises actuellement sont du court terme, elles seront rapidement insuffisantes. Et M. Özilham expliquait que les fonds internationaux qui ont beaucoup servi au redressement du pays à l'époque, à la construction, au développement du pays, ont déserté la place aujourd'hui, et le sauvetage des entreprises en difficulté ne sera pas possible très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Il faut, pour redresser l'économie, attirer les investisseurs étrangers, justement, qui ne viennent plus, tout comme les touristes. Il faut rétablir et renforcer l'état de droit, le pluralisme, les institutions, c'est pas fini, la méritocratie, la laïcité, la liberté d'expression. Et il a notamment cité la reconduction de l'état d'urgence comme un mauvais signe pour la confiance, justement. Il ne faut pas oublier, pour finir ce tableau, le problème de la menace terroriste. Alors effectivement, c'est une leçon de démocratie qui donne au gouvernement d'Erdogan et qui montre combien la Turquie est sur la mauvaise pente pour l'instant.
Alors cette pente, nous allons l'explorer, la descendre ou la remonter, c'est comme on veut, dans la deuxième partie de cette émission. Après un flash d'actualité, nous nous retrouverons dans trois petites minutes. A tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Retrouvez Écho d'ici, Écho d'ailleurs après le flash info avec Orange Monnaie. Orange. Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous propose Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Orange.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet Écho d'ici, Écho d'ailleurs, consacré à la crise économique qui ravage la Turquie. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Vous me donnerez votre avis les uns et les autres. Trois invités dans cette émission. Denise Ünal, économiste au CEPI. Denise Akagül, professeur associé à la faculté d'économie de Lille, et Jérôme Bastion, journaliste à RFI, ancien correspondant à Istanbul. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons commencé à mesurer le caractère critique de la situation. Nous avons brièvement parlé de l'effondrement du tourisme et revisité l'évolution économique de la Turquie au cours des dernières décennies. Un pays, pour reprendre l'expression d'un de vos livres, Denise Akagül, passé du sous-développement au statut de puissance moyenne. Alors il y a une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que cette évolution est remise en cause? Est-ce que la crise actuelle menace cette révolution, Denise Akagül?
Oui, parce que vous m'avez posé la question à propos du Moyen-Orient. La Turquie, pendant les années 80, avec l'ouverture à l'extérieur, voyait le Moyen-Orient comme un marché. Donc, elle approchait avec des caisses enregistreuses. C'était la politique de Turgut Özal.
Le
président d'ANAP, d'abord le Premier ministre, puis président de la République. C'est avec l'arrivée de l'AKP, surtout après le départ d'Abdullah Gül du ministère des Affaires étrangères, qu'on a commencé à appliquer une politique nommée profondeur stratégique de Davutoğlu, qui a étendu donc l'intervention dans le domaine politique. C'est-à-dire, la Turquie a commencé à chercher à influencer le Moyen-Orient sur le plan politique, donc en Syrie, en Irak, même en Égypte. Et donc, ce qui change complètement la donne. Et pour agir sur le plan politique, il faut avoir un poids à la fois économique. Et la Turquie ne dispose pas de ces moyens-là.
D'accord, elle n'a pas les moyens de son impérialisme.
Bien sûr. Donc finalement, elle peut difficilement revendiquer un rôle de puissance, même moyenne, sur le plan politique. Quand je dis puissance, puissance économique, on peut en parler au Moyen-Orient, mais sur le plan politique, on vient même récemment, le porte-parole du gouvernement a avoué que ce qui avait été mené comme politique, comme diplomatie au Moyen-Orient était une erreur et que on revenait.
Est-ce que c'est contre-productif sur le plan économique, Jérôme Bastion?
C'est bien d'autant plus contre-productif sur le plan économique que cet effort, cette volonté de puissance, on peut dire, dans la région, s'est transformé, comme on l'a vu tout récemment, par une intervention militaire directe de la Turquie en Syrie, en Irak également. Ça, c'est une grande première pour l'histoire de la Turquie. Jamais la Turquie ne s'était transportée sur un terrain d'opération militaire extérieur. Et en plus, c'est aux frontières directes de la Turquie. Donc, c'est ça qui a donné notamment le flux des 3 millions et quelques de réfugiés syriens et plusieurs centaines de mille qui viennent d'Irak, parce que ça fait maintenant 5 ans, même presque 6, que M. Erdogan est directement impliqué dans le conflit syrien, où il ne cache pas régulièrement qu'il veut faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Et donc aujourd'hui la Turquie se retrouve en guerre littéralement, perd des soldats tous les jours dans ses différents théâtres d'opération. Et donc ça, en matière d'incertitude économique notamment, on ne peut pas faire mieux.
En tout cas, le patronat turc n'est pas très optimiste pour 2017. Il prévoit une année difficile sur le plan économique. Écoutez quelques extraits de l'entretien qu'a eu notre correspondant Alexandre Billet avec Bahadir Kalerase, le secrétaire général de TÜSİAD, la plus importante organisation patronale de Turquie.
Il y a trop de facteurs d'incertitude sur le plan international, sur le plan régional et sur le plan national. C'est une ambiance de récession. il y a une ambiance où on comptabilise les risques et où on se prépare à une année qui ne sera pas mieux que 2016. Il y a cette ambiance depuis quelques mois en Turquie de l'état d'émergence, de l'état extraordinaire. En turc, c'est l'état extraordinaire, hein, donc c'est cette extraordinarité, si j'en peux dire, qui justifie toute action un peu autoritaire, centralisée, et toute action interventionniste sur tous les plans, parce qu'il y a cet esprit de mobilisation contre les attaques externes et internes. Ces attaques ne sont pas seulement physiques, ne sont pas seulement armées par le biais du terrorisme, mais aussi financières, mais aussi digitaux. Donc, oui, il y a une certaine ambiance d'extraordinarité qui justifie beaucoup d'interventionnisme, un autoritarianisme, d'une façon centraliste de gérer le pays au nom de la stabilité, au nom de l'efficacité, et au nom de l'unité du pays. C'est pourquoi il faut que nous demandions qu'il faut être vigilant, et nous sommes d'accord sur ce plan-là avec les autorités publiques turques, mais nous leur demandons de faire le nécessaire pour que ces inquiétudes que nous partageons avec eux ne soient pas justifiées dans les mois à venir. D'accord, peut-être c'est très récent, la Turquie est vraiment attaquée par le terrorisme et par plusieurs facteurs d'insécurité. Il faut les combattre, mais un combat doit aussi préserver ce qui est plus cher pour nous, c'est l'état de droit et un environnement de liberté.
Jérôme Bastion, ça confirme ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, mais de toute façon, tous les signaux sont au rouge et tous les commentaires vont dans le même sens. Les commentaires dans la presse turque régulièrement tirent la sonnette d'alarme, effectivement, sur cette instabilité et sur l'incertitude politique. Il ne faut pas oublier que si la livre turque, ces jours-ci, perd entre 1 et 2% par jour par rapport au dollar, c'est aussi parce qu'il y a des empoignades et des débats très, très virulents en ce moment au Parlement pour changer le régime politique en cours en Turquie et pour faire de M. Erdogan un super président et de transformer la Turquie quoi d'aujourd'hui. Et ça inquiète beaucoup tous les spécialistes et tous les analystes économiques.
Deniz Akgül, cette chute de la livre turque, quelles conséquences est-ce qu'elle entraîne pour l'économie, pour les importations, pour les exportations?
D'abord, ça va entraîner donc un surcroît d'inflation puisque une partie des biens sont importés. Pour l'instant, on ne peut pas dire que cette dépréciation a stimulé les exportations. Encore faut-il qu'il y ait une demande à l'extérieur. L'impact positif de cette dépréciation, enfin, si... Je suis pessimiste là-dessus, donc je ne pense pas qu'il y aura un impact positif. Donc il y aura surtout des impacts négatifs.
Alors,
là où ce qu'on craint le plus, au-delà du commerce extérieur, c'est vraiment la dette privée des entreprises. Parce que les entreprises privées turques sont endettées plutôt en dollars, parmi tous les autres devises. Et c'est vis-à-vis du dollar, avec... le contexte international aidant, le dollar s'apprécie avec la nouvelle politique de la Fed actuellement. Donc, ces entreprises peuvent se retrouver très en difficulté. Donc, on est concentré là-dessus. Mais globalement, c'est vrai que pour le moment, aussi bien la dette de l'État turc qui est moins de 40%, c'est extrêmement peu par rapport à ce qu'on peut imaginer en Europe, par exemple. Ajouter 30% au total la dette privée, on est autour d'une dette globale de 70%, il me semble. Et donc, ça paraît pas énorme. Mais le problème, c'est que ce taux de change, c'est un signe, c'est très synthétique. C'est un indicateur très synthétique qui montre aussi la confiance, mais en même temps, qui montre la difficulté actuelle de la Banque centrale turque, qui n'arrive pas à agir d'une manière autonome. Le gouverneur voudrait bien augmenter les taux d'intérêt, parce que quand vous avez une forte inflation, ce qui est le cas en Turquie, et que votre monnaie se dévalue, normalement, on essaie de parer à la situation, de remédier à la situation en montant les taux d'intérêt. Or, les autorités politiques, en tête M. Erdogan, ne veulent pas d'augmentation de taux d'intérêt, veulent que, pour que l'économie puisse marcher, qu'on ait des taux bas. Or, actuellement, ce n'est pas le remède économique qu'il faudrait. Et ça pose un problème donc d'indépendance institutionnelle de la Banque centrale turque. Et nous entrons du coup toujours dans une spirale de problèmes de gouvernance, d'institutionnalisation qui affectent d'une manière très grave l'économie.
Tenez ça, Kagul.
On a un taux d'intérêt négatif en ce moment, donc il ne faut pas s'étonner que la livre se déprécie, continue de se déprécier.
C'est-à-dire que les investisseurs, s'ils se positionnent sur la livre turque, ne sont pas rémunérés.
Ils sont perdants. Non seulement, si on calcule le différentiel d'intérêt, mettons c'est 10% actuellement, il faut qu'ils arrivent à sortir après conversion donc en dollars, donc ce qui n'est pas sûr. Et la difficulté de la dette, d'apprécier la dette publique, c'est que l'État turc s'est porté garant sur une partie de la dette privée. Quand, par exemple, les travaux publics, la construction de... grands projets actuels. Et donc, de ce fait, on ne connaît pas très bien le stock de dette publique. Parce que demain, lorsque ces entreprises seront en difficulté, qui ne pourront pas rembourser, c'est l'État turc qui va en fait, c'est le trésor donc, qui va prendre en charge.
Ça aussi, c'est nouveau. L'État ne se portait pas garant avant. Dans les projets privés. Oh, ces projets, qu'est-ce que c'est? Vous avez l'aéroport, le grand aéroport, le troisième aéroport d'Istanbul, qui est une énormité. Je ne sais pas si ça ne va pas être première au niveau mondial. C'est énorme. Et vous avez aussi beaucoup de projets énergétiques et des infrastructures, des ponts. Et ce n'est pas du tout, dans le contexte actuel, sûr que ces projets puissent être rentables. Du coup, l'État va devoir payer, du coup, va s'endetter. Ça n'apparaît pas actuellement, mais ça peut. Donc, du jour au lendemain, dans un espace de temps assez court, on peut être dans une situation inquiétante. Mais rappelons qu'actuellement, la Turquie croit encore cette année au taux de 3%. Ce qui est un exploit dans les conditions. En 2016. Parce qu'on n'a pas les chiffres vraiment certains, mais la Banque mondiale a estimé que la croissance de la Turquie en 2016 serait 3%. Pour 2017, il prévoit quelque chose comme 2,8. Ce qui est au-dessus, évidemment, de la moyenne européenne et puis au niveau de la moyenne mondiale. Donc, un pays qui est tellement attaqué, qui est pratiquement en guerre et qui est dans ce désastre, c'est quand même pas mal. Donc la Turquie a des ressources, mais ça peut très vite se renverser.
Alors cet écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI, nous parlons de l'économie turque, de ses difficultés, avec trois invités, Deniz Akagül, professeur associé à la faculté d'économie de Lille, Deniz Ünal, économiste au CEPI, et Jérôme Bastion, journaliste à RFI. Nous parlions tout à l'heure des expropriations d'entreprises. Est-ce que cela résume la politique actuelle, la politique économique du gouvernement? Quelle est la taille des saisies qui ont été effectuées, Jérôme Bastion?
Alors, il y en a de nombreuses. D'abord, il faut savoir que ce sont essentiellement des sociétés, des industries qui dépendent de la sphère de ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la communauté Gulen, de du soi-disant auteur du coup d'État du 15 juillet. Mais il y a aussi et de plus en plus de grandes compagnies comme le groupe Doğan, c'est-à-dire un des principaux consortiums holding du pays.
Donc, qui intervient dans quel secteur?
Les médias.
Notamment les médias, mais aussi le secteur énergétique, le bâtiment. Tout le monde fait un peu du bâtiment en Turquie.
Ils ont même des prises de participation avec Trump.
Avec les fameuses Trump Towers, absolument, dans le centre d'Istanbul. Donc, ça touche un petit peu tous les secteurs et certaines de ces sociétés sont des très, très grosses sociétés. C'est le haut du panier de la bourse d'Istanbul. Donc, je ne sais pas si ça a véritablement, pour l'instant encore, une répercussion sur l'économie générale du pays. Peut-être pas encore, mais en tout cas, c'est toujours pareil. C'est très inquiétant.
Je crois que comme nombre, c'est quand même quelque chose de phénoménal, comme 600. Ce sont des grandes sociétés. Hein, 600 grandes sociétés en France, vous imaginez. Mais ce qui est aussi inquiétant, c'est l'idée de la propriété qui est quand même à la base de l'économie capitaliste, et la Turquie est une économie normalement capitaliste. Et l'idée de la propriété, parce qu'on y va, c'est seulement sur base de soupçons. Expropriation, simplement on met en prison les dirigeants, tous leurs avoirs sont étatisés et il y a une longue processus d'enquête pour voir si vraiment ces personnes sont coupables de terrorisme. Eh bien, tout ça fait que ces entreprises arrêtent de fonctionner vraiment. Et tous les salariés derrière. Et aussi toute la confiance et des étrangers et de Turcs même par rapport à l'État. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'entreprends et un jour, eh ben, on met la main sur ma propriété. Là, c'est quelque chose de nouveau et je pense que c'est très, très grave. C'est le régime autocratique se voit là et que c'est une. On n'est plus quand même dans une économie de libre marché.
Alors, autre dossier de la politique turque qui a probablement des répercussions économiques, vous me le direz, la politique extérieure et particulièrement les relations avec la Russie. Les deux capitales se sont brouillées en novembre 2015 quand un bombardier russe a été abattu par la chasse turque. Les Russes avaient alors frappé de sanctions les secteurs clés de l'économie turque, en particulier le tourisme, même si vous me disiez tout à l'heure que ce n'est pas si vital pour l'économie turque. Les deux pays se sont réconciliés l'été dernier et depuis, la Turquie espère retrouver son rang de partenaire économique privilégié. C'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Étienne Bouche à Moscou.
Les mesures de représailles prises par Moscou contre Ankara avaient sabordé des objectifs économiques communs très ambitieux. Afin de faire payer l'affront turc, le Kremlin avait visé des secteurs économiques stratégiques. Il avait notamment privé le pays des nombreux touristes russes. Offres touristiques suspendues, interdiction des vols charters, résultat, la fréquentation s'était effondrée. Maya Lomidze évoque la fin d'une guerre froide économique. Directrice de l'Association des tours opérateurs de Russie, elle constate depuis la levée des sanctions un intérêt intact pour la Turquie.
Sur 9 mois, entre janvier et septembre, 545 000 citoyens russes sont allés en Turquie. Et parmi eux, ils étaient 450 000 sur les 3 derniers mois, juillet, août, septembre. Alors que les vols réguliers venaient juste de reprendre et qu'ils étaient relativement chers. La demande était très forte. En 2016, on a constaté que les vacances en Turquie avaient manqué aux touristes russes. Après ce qu'il s'est passé en décembre, l'assassinat de notre ambassadeur à Ankara, on imaginait que nos ventes allaient ralentir. Mais ça n'a pas été le cas.
Les affaires reprennent dans le tourisme, mais la reprise est moins nette dans les rayons des magasins. Les fruits et légumes turcs avaient été bannis ou soumis à des restrictions. Depuis, ils peinent à retrouver leur place sur le marché russe. Brésil, Israël, Azerbaïdjan, Arménie, Russie, les ardoises indiquent les bénéficiaires de la brouille russo-turque. Ruslan Mamedov, expert au Conseil russe pour les relations internationales.
Durant cette période, d'autres fournisseurs sont apparus. Et la Russie doit prendre cela en considération. Du coup, elle lève les restrictions imposées aux marchandises turques petit à petit. Il est évident que nous ne reviendrons pas tout de suite à la situation d'avant. Il y a désormais des producteurs russes qui ont remplacé certaines marchandises turques et il convient de soutenir ces producteurs nationaux.
Les relations entre Moscou et les pays occidentaux sont détestables, empoisonnées par des sanctions économiques. Le président turc, lui, n'est pas non plus en odeur de sainteté. Cette réconciliation russo-turque était motivée par un certain pragmatisme. En Russie, la Turquie s'est trouvée des avocats là où elle fait des affaires. C'est le cas par exemple dans la République du Tatarstan. Mikhail Mironov est chargé de la communication de la zone économique spéciale Alabouga, à 1000 km à l'est de Moscou.
Quand le conflit a surgi, des projets ont été gelés ou interrompus. On a perdu de nouveaux investisseurs potentiels. Évidemment, nous nous sommes tous réjouis. Il y a eu cette réconciliation. Désormais, on peut reprendre contact avec des investisseurs turcs et leur proposer de s'implanter chez nous. Bien sûr, ça a laissé quelques traces et il y a encore des choses à faire pour rétablir une pleine confiance mutuelle. Le volume d'investissement des 6 sociétés turques présentes dans notre zone s'élève à 1 milliard de dollars US. C'est le tiers du volume global.
Et bien sûr, la question énergétique est fondamentale dans les relations russo-turques. Au mois d'octobre, les deux pays ont signé le projet Turkish Stream qui permettra à la Russie d'acheminer du gaz vers la Turquie et l'Europe sous la mer Noire.
Un reportage signé Étienne Bouche à Moscou. Jérôme Bastion, qu'est-ce qui vous inspire ?
Eh bien, cette réconciliation assez surprenante, il faut bien le dire, entre messieurs Erdogan et Poutine, après une brouille sévère, et on n'imaginait pas que les Russes allaient facilement oublier cet incident militaire, grave quand même, qui a duré quasiment un an. Mais cette réconciliation, elle est notamment due justement à ces très gros projets énergétiques qui permettent à la Turquie non seulement de se fournir en gaz, la Russie est déjà le premier fournisseur de gaz de la Turquie, et la Turquie a beaucoup besoin d'énergie, mais en plus, ça permet à la Russie d'exporter le gaz vers l'Europe. Donc il y avait un besoin commun de se réconcilier, au moins en surface, au moins pour faire avancer ce projet qui est un projet très important pour les Russes, pour les Turcs et pour l'Europe.
Denis Akagül, la question agricole, des exportations agricoles, c'est important pour la Turquie ?
Enfin, je ne connais pas très très bien en profondeur la question, mais pour certains secteurs que je côtoie, oui.
Pour les agrumes, fruits, par exemple. Légumes, oui. Oui, justement pour tout ce qui est dans la région d'Antalya, comme pour les touristes. Mais la Turquie, au niveau économique, c'est vrai, le secteur énergétique, c'est primordial. On a aussi des centrales, notamment une qui est en cours de construction, des centrales nucléaires en construction par les Turcs, par les Russes en Turquie, avec toute une infrastructure extraordinaire, parce que il n'y a pas que la construction, même il y a l'éducation des gens qui vont travailler, la formation des Turcs qui vont travailler dedans, qui se fait en Russie naturellement. Donc c'est l'un des projets où l'État se porte garant. Les Turcs ont mis ce projet au rang des projets prioritaires en finançant eux-mêmes pas mal de besoins du projet. Alors, donc nous avons énergie et construction, qui est très très important. Les constructeurs turcs en Russie font beaucoup d'affaires. C'est parmi des entreprises les plus importantes dans la construction au monde, des investissements turcs en Russie. Mais au-delà, il faut quand même considérer que depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui, Erdogan veut se situer dans un axe eurasiatique. Et la Turquie a toujours été, même dans sa construction dans les années 1920, dans la fondation de la République, il y avait le choix entre le système capitaliste et le système communiste. Et c'est vrai que la Russie a pris l'Empire soviétique, l'Empire soviétique avant la Russie avait beaucoup aidé la Turquie progresser économiquement à la jeune République turque. Maintenant, donc la Turquie a choisi finalement plutôt l'Occident et entrée dans l'OTAN, a fait son choix. Maintenant, la Turquie se repose son axe géostratégique. Et moi, je crois sincèrement que ce problème se pose. Souvent, dans les discussions, on dit, mais non, c'est passagère, la Turquie ne peut pas sortir de l'OTAN et tout. Mais on est dans une ère tellement extraordinaire que je trouve que c'est possible. En tout cas, économiquement aussi, la Turquie essaie de tourner quand même. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a été contrariée par les révolutions arabes, je veux dire les printemps arabes. Mais la Turquie a tout fait pour réorienter son commerce aussi vers l'Eurasie. Donc, à entendre par la Russie, qui est quand même son fournisseur, les pays arabes et la Chine.
Denis Akagül, ça a été aussi impulsé, cette politique, cette réorientation, par les difficultés de la conversation, entre guillemets, entre les Turcs et les Européens, l'Union Européenne.
Oui, à chaque fois qu'il y a des difficultés, à chaque fois que l'Occident fait défaut, les Turcs s'approchent des Russes. Denis a donné un exemple au début de la République, mais aussi on peut citer à la fin des années 50, Menderes qui était un conservateur, donc qui demandait de l'aide américaine. Quand il ne l'a pas eu, il est allé chercher à Moscou. De même, Demirel, qui est aussi un conservateur, qui a demandé aux Russes d'investir dans la construction de l'usine d'acier à Iskenderun, par exemple, dans les années... Et lui, il disait, oui, je suis conservateur, il y a des questions idéologiques, nous sommes différentes, mais nous sommes des voisins, donc on fait des affaires.
Et aujourd'hui, est-ce que les difficultés de la relation entre la Turquie et l'Union européenne... est une difficulté économique aussi pour la Turquie. Est-ce que ça ralentit les flux entre l'Union européenne et la Turquie ?
Non, je dirais pas que les relations avec la Russie va être un obstacle au développement des relations avec l'Union européenne, mais il se trouve que la Turquie, depuis que le processus d'intégration économique est lancé, ça va faire maintenant un demi-siècle. Et donc, et la Turquie a réalisé une union douanière, tout en prenant en sa charge l'ajustement, parce que il faut bien signaler ici que la Turquie n'est pas membre de l'Union européenne et que par conséquent, elle ne reçoit pas les aides
les aides budgétaires
beaucoup moins que la Grèce ou l'Espagne, le Portugal, qui recevaient quand même, rappelons-le, 4-5% de leur PIB, l'équivalent de leur par an. Et donc, la Turquie a réussi quand même à réaliser l'union douanière sans qu'il y ait effondrement des secteurs entiers, des pans entiers de son économie. Et donc, elle peut se poser des questions.
Mais il est vrai que...
Denis Unal, pour le dernier mot de cette émission.
Ah, je disais qu'il est vrai que je suis quand même sincèrement, je regrette que l'Europe n'ait pas joué un rôle de démocratisation dans le processus d'adhésion vis-à-vis de la Turquie. Peut-être que la Turquie n'en serait pas arrivée ça aurait pu l'aider et ne pas arriver à cette situation. Voilà.
Eh bien, c'est sur ce regret et cet espoir, de la même manière que se termine cette émission consacrée à la Turquie. Merci à vous, Denis Unal, à vous, Denis Akagül, et à Jérôme Bastion d'avoir accepté l'invitation de RFI. Guillaume Munier a réalisé mise en onde cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine, bien sûr, pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Orange Monnaie, la solution de transfert d'argent par mobile, vous a proposé Écho d'ici, écho d'ailleurs. Orange.